Bonjour à tous. Moi, j'ai un privilège, je vois vos visages. Vous n'avez que le privilège de voir le mien. Quand on est devant et qu'on voit le visage des frères et des sœurs qui vivent leur foi, ça fait du bien. Pendant le temps de louange, j'ai regardé deux fois, trois fois Dalila dans son coin qui dansait. Et ça me faisait du bien, ça me réjouissait. Puis je voyais Sophie, d'autres qui voilà expriment leur foi. Et je disais à quelqu'un en arrivant dans l'église, en la saluant, je disais, le sourire te va très bien. Hein? Et c'est beau de voir une église qui sourit parce qu'elle se réjouit dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un culte particulier, mais je crois que nous n'aurions pas ce temps s'il n'y avait pas l'Église et s'il n'y avait pas chacune des pierres que nous sommes qui a accompagné, entouré, cheminé avec Christine, entre autres, mais avec d'autres aussi. Donc le culte n'est pas centré sur Christine, il est centré sur l'Église. Et je crois que ça va lui faire plaisir que je dise ça. Hein? Bon, tu viens au premier rang? Non. Voilà, alors je me posais la question, on devait avoir un frère que nous aimons beaucoup ici, qui est Luc Le Prévost, l'ancien président de l'Église apostolique. Il se trouve qu'il a eu des soucis de santé qui ont nécessité son hospitalisation, donc c'était assez sérieux. Et il va bien maintenant, il va mieux, en tout cas il se soigne. Mais j'ai dû prendre la relève, je suis désolé Christine. Vous allez devoir faire avec. Et je me disais, mais quel texte apporter pour nous encourager mutuellement, pour ne pas être centré sur une personne, un service, mais pour peut-être parler de l'appel qui retentit et dont nous sommes tous responsables pour nos vies personnelles. Parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que nous sommes appelés ? Et appelés à quoi par Dieu ? Et je me disais, est-ce qu'il y en a qui sont exonérés d'un appel quelconque, c'est-à-dire de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à son désir de toucher nos vies, de devenir chacun pour notre part une pierre vivante. J'aime cette formule que l'apôtre Pierre a utilisée dans son épître. Vous, pierre vivante, approchez-vous de lui. Est-ce que chacun pour notre part, et moi je le crois, mais quand je regarde vos visages, vos parcours. Je disais à quelqu'un dans un temps de rencontre hier, avec nos fragilités, avec nos échecs et nos réussites, avec nos forces, est-ce que nous pouvons devenir une pierre vivante dans l'Église du Christ ? Ou bien est-ce que c'est rédhibitoire ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tard ? Et à ceux qui pourraient penser que c'est trop tard, je dirais, il y a dans l'évangile de Jean, entre autres, un homme qui s'est approché de Jésus. Il était très âgé. Il avait son histoire. Il s'appelait Nicodème. Et Jésus, quand il est venu vers lui en cachette pour lui poser la question, mais comment être sûr d'être sauvé ? Jésus lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, c'est pas possible. Et lui a dit, mais vu mon grand âge, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour vivre cette expérience de vie nouvelle ? Il a dit, non, ça t'est possible. Alors ce matin, la question, c'est est-ce que je suis venu en pensant qu'il est possible de vivre une vie nouvelle, quelle que soit ma vie, quel que soit mon parcours, mes échecs, mes blessures, les traumatismes que j'ai pu vivre, mes erreurs ? Quels que soient mes dons et mes qualités, ou le sentiment que je n'en ai pas, est-ce que Dieu peut ce matin m'interpeller, me dire « Je te veux, pour moi. Je veux que ta vie m'appartienne. Et je t'attends. Est-ce que tu veux, toi ?» J'étais dans un temps de préparation au mariage hier matin avec un jeune couple. Et vous savez quoi ? À un moment donné, on disait, au moment de la célébration, la seule question qui compte et la seule réponse, c'est « Est-ce que tu veux ?» Et là, il y a un grand suspense parce qu'il faut que les deux disent l'un après l'autre « Oui !» J'ai pas encore eu ce moment où il y en a un tout à coup qui dit bah, « Finalement, en réfléchissant bien, je ne sais plus trop. » Et puis, après la préparation, hier matin, on a passé 2 heures ensemble, je les ai raccompagnés et puis je me dis « J'espère que je ne les ai pas découragés. » Et qu'ils ne sont pas tout à coup devant cette perspective. « Ah ouais, on ne savait pas que c'était ça, se marier ensemble. » Est-ce que tu vas dire oui ? Je n'ai pas de doute pour ce couple. Mais je pense que Dieu en a beaucoup plus quand il regarde son Église. Parce qu'il pose la question à chacun d'entre nous, « Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux être à moi ? Est-ce que tu veux me suivre ? Et si tu me suis, jusqu'où tu es prêt à aller ? Jusqu'où tu es prêt à te donner à moi ? J'ai rarement eu, dans une préparation d'un mariage, et j'en ai fait beaucoup, de conjoints, d'hommes ou de femmes qui disent bah, « Écoutez, on est d'accord pour se donner l'un à l'autre, mais il y a des domaines où, en tout cas pour moi, je ne suis pas prêt à lâcher ça. Donc, oui, pour 80%, mais il y a 20%, ça reste... En général, quand l'homme et la femme s'approchent pour se marier, ils disent, est-ce que c'est sincère ou pas ? Ça, je ne je peux pas le savoir, mais ils disent, je veux tout te donner de moi. Est-ce que nous avons la même alliance vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se poser la question, pas simplement à Christine, mais à chacun d'entre nous, que Dieu puisse nous poser la question. J'ai entendu une parole prophétique qui disait « Je veux, il n'y en a aucun d'entre vous, aucun de mes enfants n'est appelé à vivre sans mon esprit. Je veux répandre mon esprit dans ta vie. Je veux que cet esprit-là tu n'en sois pas privé. On est le week-end de Pentecôte, ça tombe bien. Nous ne lapiderons pas Juliette ce matin. A priori, cette parole était inspirée. On lapidait les faux prophètes dans l'Ancien Testament. Il faut faire gaffe. Aspirez au don de prophétie, mais faites gaffe. Est-ce que je suis prêt à laisser le Saint-Esprit ce matin me conduire vers les oui qui sont nécessaires dans ma vie ? Les pas qui sont à accomplir. Je cherchais un texte et j'ai fait un choix. J'ai choisi ce texte qui est dans le livre d'Ésaïe et qui dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi des rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des Séraphin vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché ta bouche, tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et je répondis, me voici, envoie-moi. Ce texte se trouve dans le 6e chapitre du livre d'Ésaïe. 6e chapitre. Auparavant, il y a donc 5 chapitre. On est bien d'accord jusque-là ? Tout le monde suit ? Oui, je vérifie si vous êtes attentif. Hein. Il y a donc 5 chapitres, et pas n'importe quel chapitre, des chapitres où le premier, Ésaïe en tant que prophète, porte au nom de Dieu un jugement sur Israël, sur sa vie, sur son comportement, sur le fait de ne pas répondre à l'attente de Dieu et de choisir d'autres chemins. Le deuxième chapitre, c'est une vision de la Jérusalem de son époque et qui est condamnée, avec en même temps une vision de Jérusalem dans le futur quand elle va revenir à Dieu. Le troisième chapitre, c'est la condamnation à nouveau de Jérusalem et de Juda. Le quatrième chapitre, c'est une vision du Messie qui est à venir. Pas n'importe quoi. Ce prophète annonce le Messie à venir à Israël. Et le cinquième chapitre, si vous avez la curiosité ou l'intérêt de le lire, c'est la condamnation de la vigne de l'Éternel. La vigne, c'est tout simplement le peuple de Dieu condamné. Pourtant, une vigne plantée par Dieu, voulue par Dieu, et destinée à porter du fruit pour Dieu au milieu des nations. Eh bien, cette vigne est condamnée parce qu'elle a fait d'autres choix. Condamnation des élus, mais annonce au chapitre 5, à la fin, de la victoire du Messie qui va venir. 5 chapitres, on ne peut pas dire que Ésaïe y est allé avec le dos de la cuillère et qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour parler au nom de Dieu. Et pourtant, au 6e chapitre, on a le sentiment que c'est le début de son ministère. Il est dit, au moment où l'année de la mort, c'est pas au moment, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. Et on a là un texte qui est présenté bien souvent comme la conversion d'Ésaïe et le oui qu'il lui donne pour le servir. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait et sur la base de quoi pendant les 5 premiers chapitres? Comment a-t-il pu avoir de telles révélations, une telle portée dans les prophéties, dans la parole qu'il porte à Israël? En fait, dans le chapitre 1 et 2, il est dit qu'il a eu une vision. En hébreu, c'est chazon. Il a eu une vision et il la rapporte. Il sert avec ce qu'il a, là où il en est. Et j'avais envie de dire ce matin, mais on va reconnaître un service d'ancien. Vous voyez comme quoi c'est dur. L'Église apostolique a reconnu le ministère féminin sur le ministère d'ancien. On n'arrive toujours pas. J'ai entendu Michel et je viens de faire le même lapsus. Je l'ai mis au masculin. Donc c'est un ministère d'ancienne. N'est-ce pas, Michel ? On a du mal encore à vivre cette révélation que Dieu nous apporte, je le crois, du ministère féminin dans l'Église. Alors, ce ministère d'ancienne, il repose sur quoi ? Comme tous les autres ministères, comme le service dans lequel vous êtes appelés à entrer les uns et les autres, sur quoi repose-t-il ? Là, pendant 5 chapitres, il est dit, en tout cas au premier et au deuxième, que c'est sur la base d'une vision qu'il reçoit. Il perçoit, il voit les choses et il les transmet à Israël. Alors on peut dire qu'Ésaïe, pendant ces 5 chapitres, il est un canal utilisé par Dieu. Et pourtant, au chapitre 6, il semble qu'il y a quelque chose de déterminant qui se passe. Là, ce n'est plus une vision qu'il a. Il dit « Je vois, j'ai vu ». Ce n'est pas quelque chose qu'il reçoit quelque part, mais il devient acteur. En quelque sorte, dans les 60 chapitres que compte le livre d'Ésaïe ensuite, les 6 premiers, il est un canal que Dieu utilise. Dans les 60 autres, il rentre dans un ministère qui est fondé sur une rencontre avec Dieu. Il rencontre et il voit. Et vous savez, ça renvoie à cette parole de Job qui, pendant lui aussi une 50aine de chapitres, discute, bataille en se demandant « Mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Où est-il dans ma vie ?» Et il dira à la fin de ce débat avec ses amis, mais aussi face à Dieu, « Autrefois, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et vous savez, Les 6 premiers chapitres d'Ésaïe ne sont pas très différents. Il a entendu parler de Dieu et il s'est laissé utiliser par Dieu. Mais au chapitre 6, on a vraiment le sentiment que là, il a vu Dieu. Il l'a rencontré. Pourquoi servir Dieu? Sur quoi se baser pour servir Dieu, les uns et les autres? Comment entendre la voix de Dieu qui m'appelle dans ma vie? Eh bien, ça ne peut pas se faire en dehors d'une rencontre et d'une rencontre personnelle. Ce n'est pas parce que l'Église ou un conseil pastoral ou une équipe pastorale dit « ce serait bien que tu fasses ceci ou que tu fasses cela ou que tu serves à ceci ou à cela dans l'Église ou dans le monde ». La question, c'est est-ce que tu es prêt, est-ce que je suis prêt à rencontrer un Dieu qui m'appelle et qui me dise « voilà ce que j'attends de toi ». Je vis, le verbe qu'il utilise dans son chapitre 6, c'est « je vois, raa, j'ai vu Dieu, là je suis devenu acteur, je l'ai rencontré, j'ai vécu cette expérience-là de rencontre avec lui ». Et c'est là le commencement du service, voir Dieu de manière personnelle. Est-ce que tu as rencontré Dieu de manière personnelle? J'en ai parlé récemment avec quelqu'un. Et je dis, mais est-ce que tu veux prendre le risque? Est-ce que tu veux prendre le risque de rencontrer Dieu? Je ne suis pas croyant, je crois pas. Mais je ne te demande pas si tu es croyant ou pas. Je dis, est-ce que tu veux prendre le risque de le rencontrer? Pas forcément là, dans ce lieu, rue Édouard Herriot, c'est ça? On est bien. Oui. J'ai toujours un doute. Rue Édouard Herriot, à Quévin, mais dans ta maison, dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui a témoigné de cela il y a une semaine à Francine, qui a dit, mais moi j'ai pris ce risque-là et chez moi, je me suis tourné vers Dieu. J'ai demandé à Dieu, mais révèle-toi à moi. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a rencontré Dieu. Elle a rencontré Dieu, sa vie est en train de changer. Elle a rencontré Dieu. Qu'est-ce que tu risques? Je disais à un jeune homme hier, qu'est-ce que tu risques à croire? C'est le pari de Pascal, hein, le philosophe, qui disait, moi je fais le pari que Dieu existe. Je n'ai pas besoin d'autre chose, d'autre preuve, je fais le pari parce que j'ai tout à gagner. Donc on a retrouvé ce texte dans la doublure de son manteau quand il est mort, le pari de Pascal. Est-ce que tu veux faire ce pari de la foi, prendre le risque de la foi, de le rencontrer et que ta vie soit transformée? Dire que l'on a reçu un message, une vision, c'est quelque chose qui peut se dire même à des non-croyants. Ah, j'ai vu quelque chose, j'ai eu une vision. C'est entendable, le monde est prêt à l'entendre. Ouais, bon, t'as une vision. Il y en a tellement qui vivent des choses de cette nature-là. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça peut même intéresser. Et puis, si on passe un cran au-dessus et qu'on dit, mais vous savez, tu sais, j'ai rencontré Dieu et c'est cette rencontre-là qui m'a fait me lever, qui me fait parler, qui me fait prendre position pour Dieu. Là, le monde, ça le pique, ça le chatouille. Ça dérange. T'as rencontré Dieu, comment c'est possible? C'est comme si une fourmi disait à ses copines, j'ai rencontré quelqu'un qui mesure 1m80, qui pèse 100 kilos. Non, non, mais arrête. Comment toi, une petite fourmi, tu peux voir quelque chose d'aussi grand? Comment toi, tu peux imaginer rencontrer Dieu? C'est ce que le monde va dire. Je dirais même que le monde ne veut pas entendre parler de Dieu, de cette rencontre qui nous est proposée. C'est Paul qui disait à l'église de Rome, « Il n'y a personne qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. » Aucun. Le monde cherche autre chose. Alors dire qu'on a vu Dieu, c'est de la folie pour le monde. Ésaïe était un jeune homme. Il vivait aux alentours de 700... On pense qu'il a commencé, ou il a eu cette vision du chapitre 6, en 743, 745, avant Jésus-Christ. Et qui était très jeune, puisqu'en fait, son ministère a couvert toute la deuxième partie du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on pense qu'il a été martyrisé aux alentours de 603. Donc pendant 50 ans, il a vécu, mais au moment où il écrit ce chapitre, ce qu'il a vécu au chapitre 6, il est tout jeune. Ésaïe est dans cette jeunesse, il a étudié la Bible, c'était un jeune homme en tout cas, qui était plutôt un notable, quelqu'un de nanti dans sa famille, qui ne faisait pas partie des religieux, de l'élite religieuse de l'époque. C'est pour ça que même sa vision peut poser des questions. Comment peut-il se voir à l'intérieur du temple alors que ce n'est autorisé qu'aux lévites, aux religieux, aux sacrificateurs, etc. Mais pourtant, il a cette vision-là. Il est dans le lieu saint. Il voit Dieu. Est-ce que c'est le temple de Jérusalem, c'est possible. Est-ce que c'est une vision du temple spirituel où Dieu règne? C'est possible aussi. Mais il se voit là où il ne devrait pas être, parce que ce n'est pas un religieux. Et puis je suis certain que parmi vous, il y en a qui se disent « Ouais, non, c'est pas pour moi. » Vivre pour Dieu, être dans sa présence, l'entendre, l'écouter, le rencontrer, c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bien pour ça. C'est un problème que j'ai eu toute ma vie. Pendant toute ma vie, j'ai été habité par cette conviction que j'étais habité par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Pendant 26 ans, il n'y a qu'une personne, une seule collègue au travail, une psychologue à laquelle j'ai dit « Je suis sûr qu'un jour, les gens vont se rendre compte que je suis nul. Ah, mais vous êtes le directeur. Oui, mais ils ne se rendent pas compte. » Puis parfois, je disais « Mais un jour, l'église de Kéra va se rendre compte que je ne vaux rien. » Je ne sais pas, ils vont se réveiller, quoi. On peut être habité de ces choses-là, parce qu'il y a ces fragilités qui nous habitent. Peut-être que tu ne te trouves pas digne d'être rencontré par Dieu. Chut. Chut. Oh, oh. S'il vous plaît. Donc, peut-être que vous vous pensez indigne d'être rencontré par Dieu. Pour autant, je vous assure que la parole que nous avons entendue ce matin, c'était une parole qui disait le contraire. Tu es digne d'être rencontré. Et à cette parole, qui marchera pour moi, elle n'est pas adressée à quelqu'un d'autre qu'à toi, qu'à moi. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et la cendre. C'est Job. Et si vous lisez Job, vous dites, mais c'est ce que vient de dire Ésaïe. La même chose, quand il voit, il a la vision de Dieu, il se sent indigne. Je ne sais pas si je retrouverai mon texte, mais il y a un texte que j'aime beaucoup. C'est, ça va rassurer. Ça, c'est un texte qui, et un livre qui pourrait plaire à Christine. C'est un livre dont le titre est « Des femmes et des dieux ». Des femmes et des... Ça fait référence à des hommes et des dieux. Et c'est l'échange entre une femme pasteur de l'Église réformée, qui est Emmanuelle Sebold, d'ailleurs c'est pas n'importe qui, elle est pasteur protestante et elle est présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. C'est-à-dire c'est la présidente de l'Église qu'on appelait autrefois réformée. Et elle a eu à un moment donné une émission de radio avec Florian Chinsky, qui est rabbin depuis 2005, docteur en droit et formatrice, et puis Kaina Baloul, qui est imam. Oui, il y a des femmes imams. Faudrait que j'en parle à mes collègues pasteurs qui sont contre le ministère féminin, tiens, tout à coup. Et ces trois femmes-là se sont rencontrées dans une émission de radio et au cours de cette émission, elles se sont rendues compte que finalement, leur parcours dans leur mouvement religieux respectif, il y avait les mêmes interrogations, les mêmes parcours, les mêmes difficultés. Et Emmanuelle Sebold dit ceci... Je trouve important de préciser que je n'ai jamais aspiré ou cherché à obtenir tel ou tel poste. C'est toujours l'Église qui m'a sollicité. Il s'agit d'un travail de discernement qui est confié à une commission, à l'Église, et cette commission élabore des critères et puis cherche des personnes correspondant à ces critères. Plus loin, elle dit « Il me semble que cette disposition donne finalement une très grande liberté dans l'exercice du ministère. Il n'y a pas de place pour une quelconque ambition. » Quand le président en exercice est venu me dire « La commission de nomination t'appelle à te rendre disponible pour l'élection à la présidence du Conseil national », sur les coups, je n'ai rien compris. J'avais l'impression brusquement que la maison se mettait à pencher. Je n'avais jamais pensé une seule seconde à ce poste et je le lui ai dit et il a répliqué « Bah, si tu n'as jamais pensé à ce poste, c'est pour ça qu'on t'appelle. » Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ces lignes parce que il y a quelques mois, avec l'équipe pastorale, on s'est rapproché de Christine pour lui dire « Il nous semble être arrivé au stade où il serait bon que tu puisses accepter ce que tu vis, ce ministère d'ancien. » Je pense que sa maison a penché aussi quand on lui a dit ça. Elle a dit « Je vais réfléchir » et ça lui a pris quelques mois. Et elle a tenu les mêmes propos. Moi, je ne demande rien. Je veux simplement être. C'est ce que Emmanuel Sebolt a dit. Et l'autre lui a dit bah, « C'est pour ça qu'on t'appelle. C'est parce que, justement... tu demandes rien, mais tu vis et tu es. Alors si certaines personnes rêvent de prendre ma place, dit-elle, éprouvent de la jalousie ou de l'agressivité, je reste intérieurement très sereine. Je n'ai rien demandé. D'autres que moi ont pris la décision, l'appel de l'Église, la reconnaissance par les autres, la désignation par les frères et sœurs, voilà l'important. » Et j'ai envie de dire que, au niveau d'Ésaïe, il n'a rien demandé. Il a seulement contemplé Dieu et répondu à Dieu. L'année du roi Ozias, l'année où le roi Ozias est mort, il a vécu cette expérience. C'est quelque chose d'assez particulier. Alors, si on ne connaît pas l'Écriture, on se dit oui, c'est juste une indication historique. Pas du tout. Ozias était un roi, et si vous lisez... le livre des rois, des chroniques, il est toujours dit, bah, il était bon, il était mauvais, il était mauvais, il est devenu bon, il était bon, il a glissé, il s'est un petit peu trompé à la fin. Mais Ozias a été roi et il a été un bon roi, en tout cas au début de son appel. Et il a régné à partir de l'âge de 16 ans pendant presque 50 ans. Et puis, il a vraiment tirer Israël vers le haut et ramener Israël comme nation auprès de Dieu. Mais, quand il est dit en l'année de la mort du roi Ozias, ça veut dire qu'Ésaïe est tout jeune et que le roi, il a assisté à cette fin de règne et de vie. Il a vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Et c'est intéressant cette mention. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Parce qu'Ozias, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, il est dit qu'il avait 16 ans et qu'il a été établi comme roi. Mais plus tard, il est dit que, dans le même livre des Chroniques, qu'à la fin de sa vie, il s'est enorgueilli de ce qu'il était, de sa position de roi. Alors, il a fait quelque chose d'inimaginable. Il a dit « Je suis tellement bien que finalement, j'ai plus besoin de passer par les sacrificateurs pour m'approcher de Dieu. Je peux quasiment lui parler d'égal à égal. » Et il a fait quelque chose de terrible. Il a dit « Ben, aux sacrificateurs, poussez-vous. Maintenant, je vais aller voir Dieu directement. » Et il est entré dans le lieu saint. Vous savez, je vous parlais de ce tabernacle, bah lui, dans le temple de Jérusalem, il y avait ce parvis. Lui, il a franchi le parvis, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il est entré dans le lieu saint et il est allé à la rencontre de Dieu parce qu'il dit « Maintenant, je suis tellement bien. » Dieu l'a condamné et à l'instant même, il est devenu lépreux. Et il a fini sa vie dans une cabane à l'écart, isolé parce qu'on ne touchait pas et on ne fréquentait pas les lépreux. C'était un homme qui avait bien commencé dans son appel. C'est terrible. Mais vous savez quoi, quand je lis cela, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont commencé, qui ont dit oui à Dieu et qui se sont énorgueillis de ce qu'ils étaient, de la hauteur qu'ils pensaient avoir et qui ont oublié l'essentiel. Je ne suis juste qu'un serviteur. J'ai peu de crainte aujourd'hui par rapport à la personne que nous allons reconnaître. Parce qu'elle est un peu comme ce pasteur qui disait « j'ai rien demandé, je suis juste là pour servir ». Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons entrer dans cette vision du service ? Parce que l'année de la mort du roi Ozias, il est lépreux depuis plusieurs années. Ce fameux roi qui se disait « j'ai plus besoin du sacrifice, j'ai plus besoin d'être couvert par la grâce de Dieu et un animal qui est mort pour mon péché, je peux y aller franco, je suis l'égal de Dieu, regardez-moi !» C'est vrai que c'était un grand roi, un magnifique roi. Il a terminé isolé parce qu'il a oublié que ce qu'il était n'était que par le bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, dans cette phrase, l'année où le roi Ozias est mort, entre guillemets, lépreux parce qu'il est rentré dans le temple en croyant qu'il était juste par lui-même, fermez les guillemets, j'ai vu Dieu assis sur son temple, dans son temple. Et là, Ésaïe juxtapose le roi lépreux qui est dans son coin, et le roi des rois qui règne dans le ciel. Gardons-nous de nous glorifier de ce que nous sommes. Gardons-nous de nous glorifier de nos forces, de notre pouvoir et de vouloir nous passer de Dieu. Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà ce qui importe. Pouvoir contempler Dieu par la grâce qu'il nous accorde. Et c'est notre bénéfice, c'est notre possibilité à nous aujourd'hui. Je ne suis pas chrétien parce que je suis bien. Je ne suis pas croyant parce que je suis une belle personne. Je suis dans le corps de Christ parce que sa grâce est sur ma vie. Alléluia. On peut supposer que voyant le bon roi Ozias touché à sa fin, Ésaïe a peut-être été inquiet pour l'avenir du royaume de Juda, pour Jérusalem, se demande ce qui va arriver. Certainement que jeune homme, il est là en se disant, mais maintenant que lui est proche de mourir, qu'est-ce qu'il va se passer? Et quand je vois aujourd'hui l'état du monde dans lequel nous vivons, la même inquiétude peut nous habiter. Quand on voit comment notre planète est totalement soumise à l'activité des hommes, au péché de l'homme qui n'a pas pris au sérieux son rôle de prendre soin de la création, on peut se dire comme Ésaïe, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y aura, pouvait se dire Ésaïe, un déclin économique, une famine? Et dans les chapitres précédents, le chapitre 6, il y a cette peur, cette crainte et ce message d'Ésaïe dans les 5 premiers chapitres qu'il est vain de placer sa confiance en l'homme et qui ne sait pas quand il rendra son dernier soupir ni combien son cœur va continuer à battre, ni comment le monde va évoluer. Ésaïe se rencontre au temple de Jérusalem, dans cette partie réservée aux laïcs juifs, sans doute dans le but d'invoquer Dieu, de le prier, de lui dire mais agis parce que le roi va mourir, fais qu'il se passe quelque chose. Et c'est là qu'il a cette vision de Dieu. Est-ce que le service dans ce texte d'Ésaïe 6 ne nous donne-t-il pas une clé essentielle ? Il faut avoir une rencontre personnelle avec Dieu et il faut, comme Ésaïe, avoir une conviction face à un Dieu qui est saint. Saint, saint, que je suis pécheur. Pécheur, pécheur. Mais cette attitude-là, cette conviction, cette conscience de ce que je suis devant un Dieu saint, n'est pas là uniquement pour me condamner et me juger. Elle est là pour me faire toucher du doigt le fait que Dieu peut m'enlever mon péché, ma faute, et faire que dans mon imperfection, je puisse être en relation avec lui. Il est dit ici, il y a une scène. Alors, je sais qu'on avait un ami qui, au collège biblique, était dessinateur. Il avait entrepris, dans tous les textes de l'Ancien Testament, de dessiner ou de représenter toutes les créatures célestes en se disant, voilà à quoi ressemble un séraphin, voilà à quoi ressemble un ange, etc. Et puis alors, je crois qu'il a complètement perdu les pédales quand il est allé, je crois que c'est dans les visions d'Ézéchiel, où alors là, vous avez des choses avec des yeux, des roues, des choses. Et là, il se dit, là, j'y arrive plus, là. J'arrive plus. Mais ce verset 2 et 3 des séraphins qui vont sur l'autel prendre un charbon, c'est tout simplement dans le temple, il y a un autel des parfums, où il y a de l'encens qui est posé, qui brûle toute la journée pour représenter les prières qui montent. Cet encens, ces charbons qui brûlent de l'encens, ils sont ardents. Et c'est une manière de dire à Isaïe, maintenant, tu ne peux pas être pur. Tu ne peux pas être gracié par toi-même. C'était l'erreur d'Ozias. Mais ce charbon-là qui représente ce feu qui brûle, eh bien, touche tes lèvres. Et moi, je te déclare maintenant pur. Il faut avoir une conviction de péché, parce que s'il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de grâce. C'est impossible, ça ne sert à rien la grâce. Quand on parle de la grâce au monde, on dit, bah, pour avoir l'intérêt de bénéficier de la grâce de Dieu, il faut avoir une conviction de péché. Et il n'y a pas de service qui soit dans le cœur et la pensée de Dieu, qui ne repose pas sur des hommes et des femmes qui clairement ont une conviction de péché, mais sont aussi au bénéfice de sa grâce et de son pardon. Et c'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit déposera en toi une conviction de ta nature imparfaite, du péché qui est dans ta vie? Si oui, alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tu peux être rencontré par le Dieu de grâce qui te dit, maintenant, tes péchés sont enlevés parce qu'il y a eu sur la croix quelqu'un qui a accepté d'y monter pour toi, de mourir pour toi. C'est cela le charbon ardent d'aujourd'hui. Ah, être au bénéfice de la grâce de Dieu, pouvoir être touché et pouvoir ensuite entendre cette question de Dieu qui dit « Qui marchera pour moi ?» Quand Dieu parle aux hommes et aux femmes de tous les temps, et il y en a qui entendent et il y en a qui répondent. Et puis il y en a qui font l'oreille sourde. Quand j'ai été placé en famille d'accueil dans ma jeunesse, je me suis retrouvé dans une classe avec, je crois, on devait être 25-26 élèves de l'école maternelle jusqu'au CM2, dans la même classe. C'était à la campagne, un village où il devait y avoir 50 habitants bien comptés. Et je me rappelle que les classes étaient extraordinaires. C'est là où j'ai vécu les plus belles années de mon école, de ma scolarité. Et je me rappelais, on avait une institutrice qui s'appelait Madame Mandeville, qui avait le don de stimuler les personnes, les élèves, même ceux qui, comme moi, étaient convaincus qu'ils étaient nuls. Et je faisais partie de la classe des CM1. Et quand elle posait, elle disait, bon, voilà, une question, les autres, vous travaillez sur tel exercice. Hein? Bon, les CM1, je vais vous poser des questions, on va vérifier ça. CM1, on était 6 dans la classe. Et quand elle disait ça, alors moi, je regardais en haut l'air, je regardais mon bureau, tu vois, mais on n'était que 6. Difficile de se cacher. Je me rappelle que ma maman, quand elle est venue quelques mois après notre placement, Elle est allée voir la nourrice, puis elle a dit « Jean-Marc, ça va à l'école ?» Elle a dit « Bah, c'est un peu compliqué. Bah, » Il m'a quand même dit qu'il était bien classé, là, lors des derniers contrôles. Alors, la nourrice a dit « Ah bon, il vous a dit ça ?»« Ouais. » « Bah, quand même, il est sixième de sa classe. » Alors là, j'étais en train de surveiller, et il y a la nourrice là, qui la regardait et dit « Oui, 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 il est sixième. » Puis elle a mis un moment avant de dire « Mais en fait, ils sont six. Hein. » Je vais vous interroger. Qui marchera pour moi ? Alors vous pouvez faire comme moi à l'école. Regardez vos chaussures. Regardez votre voisin. Il y a Solange qui va regarder Maurice en disant bah, « Tiens, écoute, il y a le pasteur qui parle pour toi, là. » Il y a Ivan qui va regarder son frère. Allez, écoute, je crois qu'on cause, ça te concerne. Non, non, c'est Dieu t'appelle. Dieu veut toucher ta vie, il veut te rencontrer. Il veut que tu puisses le servir. Oh, qui enverrai-je ? Esaïe a été surpris par la voix de l'Éternel. Vous imaginez hein, quelqu'un comme Dieu qui dit « Qui enverrai-je » alors qu'il est tout seul devant ? C'est un peu comme moi dans ma classe de CM1. Je vais interroger les CM1. Bah, oui, oui. On n'est pas beaucoup. Bah, vous savez, Dieu vous regarde et dit « J'ai des plans pour ta vie. Je veux que tu serves à ma gloire. Je veux utiliser ce que tu es, ce que j'ai déposé en toi. Tu es quelqu'un de précieux. » Oh là, oh, attends, précieux, exagéré. Juliette, elle est beaucoup mieux. Hein. Oh, non. Vous savez, on est là, on se dit, mais non. Et Dieu s'adresse à moi particulièrement et à toi aussi particulièrement. L'Éternel voulait faire passer un message au peuple d'Israël. Il ne trouvait pas de personne disponible. Il est dit par l'apôtre Paul que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde. Ça en fait un paquet, quelques milliards. Il attend la révélation, c'est-à-dire quand les enfants de Dieu qui sont au bénéfice de sa grâce vont-ils partager, porter la vie qu'ils ont reçue. Il y a un manque d'ouvriers, dira Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 37. Il dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Oh ! Enfin, nous, au niveau de l'équipe pastorale, on en a trouvé une. Ah, oh, qu'est-ce qu'on est content ! Ah, oh, une de plus ! 40 ans pour y arriver. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a vraiment un manque d'ouvriers. Quelle est ta place dans la moisson ? Quelle est ta place en tant que pierre vivante dans l'Église de Christ ? Ce que Jésus cherche, ce ne sont pas des prédicateurs ou des chanteurs qui montent sur une estrade, qui vont faire un show, qui vont se glorifier. J'en ai vu tellement ces 15-20 dernières années. Ah, combien de jeunes gens se disaient « Mon ministère, c'est faire de la louange avec une guitare électrique et un orchestre derrière moi. » Aïe, 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 je dis bah, « Dis donc, c'est des nouveaux ministères, je ne sais pas. » Et j'en ai vu tant qui, 20 ans après, ont disparu des radars. Non, ce que Dieu cherche, c'est des moissonneurs, des gens sans qualification. Si tu n'as rien, c'est très bien. Si tu considères que tu n'as pas de dons, Dieu te donnera les dons ou te révélera les dons qui sont en toi. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, parfois dans les endroits où personne ne les voit. Jésus a besoin de toi. Qui se lèvera ? Qui marchera pour moi ? Et Esaïe s'est trouvé devant l'Éternel, il a réalisé qu'il avait besoin de servir, de répondre à l'appel de Dieu, il a pris conscience de son péché, il a pris conscience que Dieu lui enlevait son péché et en faisait quelqu'un de juste. Est-ce que vous pensez que Dieu peut être un maître sage pour chacune de vos vies? Il y a un texte qui date d'un petit peu loin. Et l'auteur disait ceci. On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés états ecclésiastiques et que les princes, les seigneurs, les artisans, les paysans seraient appelés états laïcs. Ce qui est certes une fine subtilité, une belle hypocrisie. Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction. Nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi, et sommes de la même manière chrétiens, car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique, d'être des pierres vivant dans l'Église. Ce que fait le pape ou l'évêque, à savoir l'onction, la tonsure, l'ordination, la consécration, peuvent transformer un homme en cagot ou en idole barbouillée d'huile, mais ils ne font pas le moins du monde un membre du sacerdoce ou un chrétien. Virulent le type, hein ? Martin Luther, écrit à Wittenberg en 1520. Et je voudrais juste terminer ce partage sur ce texte. Il y a exactement 29 ans moins une semaine, nous étions en convention de l'Église apostolique en Normandie en le 23 mai 1994, 29 ans à une semaine près, et Luc Le Prévost, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, a apporté une parole prophétique. Et cette parole-là, il y a 29 ans, disait ceci. Je vous dis juste un extrait. Je voudrais attirer particulièrement ton attention, mon peuple, sur le ministère d'anciens dans ton Église. Car bon nombre de vos églises souffrent de ce manque. Vous avez besoin de bergers, d'hommes et de femmes matures. Je rajoute femmes parce que c'est de 94, hein. D'hommes et de femmes matures qui soient des repères, qui soient des exemples. Et je vous invite à prier pour cela, afin qu'ils naissent, afin que ceux qui sont déjà en train de naître prennent de la force. Oui, mon peuple, tu es concerné par cela. Ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, c'est ton affaire. Tu as à prier pour cela. Alors nous allons maintenant prendre un temps de reconnaissance pour le ministère d'ancienne de Christine. Mais la première chose, j'ai envie de dire, je vous remercie, vous, Église, d'avoir fait que cette femme puisse entrer dans l'Église et ait fait tout ce chemin avec sa famille pour qu'aujourd'hui elle puisse être reconnue, non pas parce qu'elle le veut et le désire, elle ne demande rien, mais simplement parce que vous l'avez accompagnée, vous l'avez aidée à être ce qu'elle est et de rentrer pleinement dans le oui qu'elle a donné à Dieu. Alors merci à vous pour vos prières, votre accompagnement, votre bienveillance. Mais merci aussi pour tous ceux que vous allez porter afin qu'ils deviennent ce que Dieu a prévu. Je parle souvent des jeunes. Il y en a quelques-uns ici. Vous avez Esteban. Vous avez Kevin, vous avez Ivan, vous avez des gens qui commencent leur vie avec le Seigneur ou qui le cherchent. Vous en avez qui sont anciens. Priez pour que chacun devienne le serviteur que Dieu a prévu qu'il ou elle soit dans l'Église. Vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, continuez à le faire. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez les uns pour les autres. Priez pour Christophe, pour qu'il devienne ce que Dieu a prévu. Priez pour Juliette. Vous avez fait quelque chose, vous ne vous en rendez pas compte, mais ce qu'elle est aujourd'hui dans un ministère d'inspiration, un service d'inspiration, ce n'est pas seulement le fruit de son oui à elle, c'est aussi le fruit de vos prières pour elle. Christine, je sais qu'elle a un petit groupe de prières. Régulièrement, je vois ma femme partir, pas en cachette, hein, mais pour rejoindre ce groupe de prières. Ce groupe de prière, c'est lui aussi qui a permis cela, que Christine puisse grandir. Et chacun de notre... Regardez chacun, l'autre, prier pour qu'il devienne serviteur et servante de Dieu dans l'Église. qu'il s'épanouisse, que ses dons naturels deviennent une évidence pour lui, pas pour s'en glorifier, mais pour servir, qu'il puisse être équipé de dons spirituels de Dieu, l'esprit de prophétie, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, dons de guérison. Priez pour que chacun puisse véritablement être équipé des dons surnaturels qui vont dans le sens du service qui est le sien. Alors merci pour vous, pour votre accompagnement vis-à-vis de Christine, et merci pour l'accompagnement que vous faites et ferez pour les autres. Vous continuerez de faire. Amen.